Merci. Merci Eric pour cette première partie déjà enrichissante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, à ceux que je n'ai pas pu saluer. Dieu nous fait grâce encore d'avoir accès à sa parole ce matin. Et c'est une joie pour nous, oui, une joie de nous rassembler pour chanter ses louanges et méditer sa parole. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu de gloire, nous voici devant toi, avant toute chose pour te dire merci. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui à qui nous pouvons parler avec confiance que tu nous entends et que tu réponds. Merci pour tes soins de chaque jour. Merci pour ta parole qui nous éclaire. En ce moment également, nous voulons nous abandonner dans ta main, tes tendres mains, moi le premier. Je suis tout petit pour apporter l'évangile, la puissance de Dieu. Paul dit que nous sommes des vases de terre, incapables de porter le trésor qui est l'évangile de Christ qui sauve l'humanité. Alors Père, on ne peut compter que sur ta présence. Que ton Esprit Saint nous ouvre les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous sommes dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Continuons notre étude biblique. Pour ceux qui sont visiteurs parmi nous, on va faire un récap pour que vous puissiez savoir où nous en sommes. Donc, 1 Corinthiens, vous préparez le message 1 Corinthiens au chapitre 2. Donc, pour contextualiser notre message, rappelez-vous que cette première lettre de Paul a été adressée à l'église de Corinthe, dont le problème majeur était son attachement au monde. Une église incapable de rompre complètement avec sa culture d'origine. La plupart de ses croyants avaient du mal à renoncer à leur manière de vivre. Immoralité, égoïsme, du paganisme étaient toujours parmi eux. Il y avait un désordre dans l'Église. Un certain James Moffat, qui a écrit un commentaire sur le Nouveau Testament, a résumé la situation à Corinthe en disant « L'Église était dans le monde chose normale, mais le monde était aussi dans l'Église chose anormale. » Je ferme la parenthèse. L'apôtre Paul commence cet épître en faisant appel à la sainteté et ses effets. C'est au premier chapitre jusqu'aux neuf premiers versets de ce chapitre. C'était la première prédication que Paul nous a apportée il y a deux semaines. La deuxième partie traitait le problème des divisions dans l'Église, qui n'est pas d'hier, qui n'est pas seulement d'aujourd'hui, mais on voit que les Églises se suivent et se ressemblent. Donc ce texte concerne toujours d'actualité. Division d'Église, il va y consacrer quatre chapitres, du premier chapitre jusqu'au quatrième chapitre, verset 21, où l'apôtre Paul souligne d'abord l'importance de l'unité. Il va y consacrer trois chapitres jusqu'au troisième chapitre, verset 23. L'apôtre Paul parle l'importance de l'unité dans l'Église. Il exhorte les croyants à éviter des rivalités liées aux serviteurs. Vous vous rappelez qu'il y a ceux qui disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis… » Paul dit non, il faut changer cette mentalité parce que ça affaiblit l'Église de Christ. L'apôtre Paul appelle les croyants à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. C'était la première partie de la prédication de Patrick la semaine passée, dimanche passé. Patrick nous a également montré comment Dieu n'a pas fait recours à la sagesse humaine pour révéler l'Évangile. L'intelligence humaine a été et est toujours incapable de saisir la sagesse de Dieu et le mystère de l'Évangile. C'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est le verset 18 de ce premier chapitre. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et au verset 28, Paul continue, « Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Nous sommes au verset 29 de ce chapitre. Dieu ayant disqualifié la sagesse humaine comme moyen de parvenir à le connaître, aucun pécheur sauvé ne peut se vanter d'être parvenu au salut par son intelligence. Aucun pécheur sauvé ne peut se vanter d'être parvenu au salut par son intelligence. Dieu seul sauve par sa propre sagesse. Dieu seul offre un moyen pour le salut. C'est à lui que revient toute la gloire. Ce matin, nous sommes dans une situation où la parole de Dieu nous dit « Tu ne peux pas revendiquer ta doctorat pour dire que tu es accepté au ciel. Tu ne peux pas revendiquer ton master pour dire « Puisque j'ai un master, je maîtrise tel, alors du coup je suis sauvé. Parce que je maîtrise l'astronomie, la philosophie et conchat, alors je suis sauvé. » C'est faux et disqualifié. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas non plus dire que parce que tu n'es pas qualifié des diplômes et quoi, que non plus tu ne vas pas vers le Seigneur. Non. Ce qui est condamné, c'est l'intelligence humaine dans sa largeur. Les plus expérimentés que ceux qui n'ont pas ces diplômes, ces intelligences humaines, nous touche par nos moyens personnels, nous sommes disqualifiés pour nous sauver nous-mêmes. Se pose alors la question, ce qui va nous concerner ce matin, par quel moyen alors Dieu permet l'homme de le connaître et d'être touché par le message de la croix? Comment Dieu se révèle à nous? C'est la partie que nous allons lire dans ce deuxième chapitre de l'Épître de Paul aux Corinthiens. Nous lirons d'abord les cinq, nous allons lire tout le chapitre. Nous prenons d'abord les cinq premiers versets et que nous allons analyser par après. Ensemble, je lis la parole de Dieu. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasif, de la sagesse, entre parenthèses, humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je répète ce verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Beaucoup d'enseignements déjà dans cette partie. Ce premier verset, l'apôtre Paul rappelle encore ce qui était l'essentiel. Il voulait prêcher, annoncer le témoignage de Dieu. Je suis venu annoncer le témoignage de Dieu. De quoi s'agit le témoignage de Dieu? Lorsqu'il est arrivé à Corinthe, ce ne sont pas ses qualités d'orateur, d'un connaisseur de la loi, parce que rappelez-vous que quelque part, il en parle, il avait été bien formé au pied de Gamaliel, mais il souligne ici, ce n'est pas ses qualités personnelles qu'il mettait en évidence en premier. Il n'a pas apporté un discours de philosophie. Il n'a pas voulu flatter son public. Corinthe, on dit qu'à cette époque, c'était la deuxième ville après Olympe en termes de sport. Il y avait des activités sportives qui attiraient beaucoup de gens. C'était une ville où il y avait du mouvement. C'était facile donc pour un philosophe de renommée de rassembler les foules, mais ce n'était pas l'objectif de Paul. Sa préoccupation principale était de glorifier Dieu plutôt qu'à se glorifier lui-même. Il n'était pas à la recherche de l'émotion ni l'approbation des foules. Au contraire, son travail visait à exposer la vérité de Dieu pour que Christ soit glorifié et que le cœur et la conscience des Corinthiens soient touchés par la parole de Dieu. Il le marque parce que des fois, ça échappe à ceux qui prennent la parole au nom de Dieu. Il marque qu'il cherchait d'abord donner le témoignage de Dieu et glorifier Dieu et Christ Jésus dans tout ce qu'il disait. Au verset 2, l'apôtre Paul prêche ce témoignage de Dieu. Il fait connaître Jésus-Christ en sa personne, en tant que Seigneur et Sauveur, et il parle de Jésus-Christ crucifié pour souligner l'œuvre de Christ à la croix. Dieu lui-même a rendu témoignage de Jésus. Rappelons-nous la parole de Dieu en Matthieu chapitre 17, verset 5. De la nuée, une voix fit entendre ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Voilà le témoignage de Dieu. Dieu témoigne de Christ. Le témoignage de Dieu n'est que de parler de Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ, le crucifié, qui s'est donné pour le pardon des péchés de l'humanité. Nous trouvons encore ce témoignage de Dieu. J'ai voulu insister sur ce témoignage pour que nous puissions comprendre l'importance de Jésus et de ce qu'il a fait. En 1 Jean chapitre 5, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Le témoignage de Dieu, c'est Christ qui nous sauve, c'est Christ qui nous donne la vie. Au verset 3 et 4 de notre lecture de ce matin, j'y ai trouvé une leçon d'humilité de la part de l'apôtre de Paul. Il parle, j'ai été faible, au verset 3, craintif et tout tremblant chez vous. On connaît les qualités de Paul. On sait ce dont Dieu avait déposé en lui. On sait combien il pouvait faire des miracles et la puissance qui suivait la parole. Mais Paul fait attention pour que cette puissance de Dieu ne lui soit pas accordée à lui. Il est conscient de ses faiblesses. Il tremble. Il sait qu'il porte un message très fort qui concerne la vie des gens. Il sait que c'est l'Esprit de Dieu dans sa puissance qui accompagne la prédication d'un homme ordinaire sans valeur particulière comme lui, comme nous tous. Il sait que c'est l'Esprit de Dieu qui amène la conviction du péché, la conversion des cœurs chez les Corinthiens. Il sait qu'il ne peut rien par lui-même s'il n'est pas assisté par le Saint-Esprit de Dieu. Et plus tard, il dira dans la deuxième lettre, toujours aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans deux vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Paul est conscient qu'il porte un message très fort, la puissance de Dieu, mais que cette puissance n'est pas la puissance d'un homme et que rien ne doit lui être attribué. Il évite à ce que les hommes puissent s'attacher à lui, comme on le voit souvent. Les croyants qui s'attachent aux hommes qui apportent le message, au lieu de s'attacher à Dieu lui-même, propriétaire du message. C'est Dieu propriétaire du message qui sauve. Si un homme est capable de faire quelque chose au nom de Jésus, la gloire est pour Jésus et non à cet outil qui transmet le message. Au verset 5, l'apôtre Paul nous partage sa motivation. Que la foi des Corinthiens soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine de Paul. Que les convertis s'attachent à Dieu et son Fils Jésus-Christ et non aux messagers. Une leçon d'humilité pour nous tous qui servons le Seigneur. Pour nous tous, toi et moi, que l'Éternel peut utiliser pour évangéliser et on voit les gens qui changent. La gloire est pour notre Dieu. La gloire n'est pas pour un homme. Que la foi des Corinthiens soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est la fondation. Une foi fondée sur la puissance de Dieu. Cette puissance qui naît de la sagesse de Dieu et cette sagesse de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu. Tout est centré sur Dieu. Tout est centré sur sa sagesse. Il avait expliqué dans le premier chapitre pour confondre, montrer combien la sagesse de Dieu dépasse de loin la sagesse des hommes et que les moyens choisis par l'Éternel n'ont rien à voir avec nos pensées. Et il va encore le répéter dans les versets qui vont suivre pour nous montrer qu'au départ, il y a cette sagesse de Dieu qui est révélé dans sa parole et qui, à travers cette parole, l'homme acquiert alors la puissance qui est capable de changer son cœur et de le sauver. Une foi fondée sur la puissance de Dieu qui prend origine dans la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même qui est révélée par la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui est le conceptionnel, le créateur, l'inventaire de ces moyens qui nous sauvent. C'est dans sa sagesse que tout est né. Je vous invite alors à continuer notre lecture. Nous allons lire la deuxième partie à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. C'est pour ta bien, une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Ici s'arrête notre lecture. On se pose encore la question, alors pourquoi Paul revient encore sur cette sagesse? Il avait parlé au premier chapitre. Paul veut insister, encore une fois, faire la différence que ce qui sauve ne vient pas des hommes. Ce qui sauve prend naissance dans la sagesse révélée de l'Évangile, qui est d'origine divine, qui est révélée par l'Esprit Saint. Il va commencer à nous parler du Saint-Esprit. Il va commencer, Eric en a fait allusion dans la présidence Romains chapitre 8, dans les versets qu'il nous a lus. Et si vous le gardez encore, ce chapitre de Romains, épître de Paul aux Romains, les 14 versets qui commencent, encore Paul insiste sur l'importance du Saint-Esprit. Dans le cheminement en tant que pécheur converti, il parle. Il en revient ici pour expliquer comment cette sagesse, cet esprit de Dieu est le moteur qui véhicule la sagesse de Dieu. Il le dit clairement, les sages de ce monde n'ont rien compris de la sagesse de Dieu. Ils ont fait des recherches, ils ont étudié. Et il m'est arrivé de lire le raisonnement de chez les nihilistes, ceux qui pensent qu'il n'y a rien. En effet, quand tu lis la parole de Dieu, que ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, on comprend pourquoi les hommes vides, les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, pensent que tout est rien. C'est parce qu'ils sont vides en eux. Qu'effectivement, tout est rien. Mais ici, Paul insiste. Il y a la sagesse de Dieu qui est au centre et il y a l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit de Dieu qui est capable de révéler cette sagesse cachée de Dieu. Christ à la croix, la sagesse cachée de Dieu, cette sagesse que les sages ne saisissent pas, même aujourd'hui. Parler que quelqu'un, Christ est mort à la croix, une mort atroce qui était destinée à ceux qui sont méprisés, et que cette mort qui sauve l'humanité, ça reste insensé dans les sages de ce monde. Seul l'Esprit de Dieu est capable de révéler cette parole. Seul le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous révéler cette richesse qui est derrière la sagesse cachée de Dieu. Il la parle et dit que cette sagesse est mystérieuse, non pas pour dire qu'elle est insaisissable, mais pour dire que Dieu l'avait déjà conservée, mais qu'il ne l'a révélée qu'au Nouveau Testament, lorsque Christ est arrivé. Il a été l'exemple concret, visible de la sagesse de Dieu, le pardon de Dieu à l'humanité. Dieu qui manifeste son amour à l'humanité. Dieu qui se réconcilie avec l'humanité à travers l'amour, à travers la mort de Christ. Voilà cette sagesse cachée de Dieu. Au verset 10, notre troisième partie, verset 10 jusqu'au verset 16, à la fin de ce chapitre, Paul va dans le vif du sujet. Je dirais même que c'est la partie centrale de ce chapitre. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, cette sagesse de Dieu, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui par les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Une partie que j'ai trouvée, je peux dire une partie technique, mais dont le message central, c'est l'action du Saint-Esprit. Paul, après avoir expliqué quelle est sa motivation, que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu, après avoir expliqué encore la sagesse de Dieu cachée aux sages de ce monde, et ici, il apporte l'élément clé pour nous qui se pose la question, alors si on ne sait pas saisir cette sagesse, comment saisir cette sagesse de Dieu, il nous donne la solution, il nous parle des actions du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui implémente la sagesse de Dieu dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous ouvre les yeux, qui nous montre le chemin. Il en explique au verset 10, et ici il y a trois actions dont il énumère dans ces parties, cette partie que nous venons de lire, l'action du Saint-Esprit dans sa révélation. La révélation qui est un acte de Dieu par lequel il nous fait connaître ce qui était autrefois inconnu, totalement introuvable, inaccessible. Il nous explique comment c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé la parole, les vérités aux prophètes lorsqu'il dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, a révélé la sagesse par son esprit. C'est l'esprit qui examine tout, même les profondeurs de Dieu. Dans cette partie, l'apôtre Paul nous montre combien eux, quand il dit « nous », il parle des apôtres et les autres qui ont écrit la parole de Dieu, notamment le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, c'est par l'Esprit de Dieu que ces vérités de Dieu ont été révélées aux apôtres et aux prophètes. La révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit est pour nous également, qui ont reçu et cru l'évangile de Christ à la croix, nous qui sommes devenus ses amis, les amis de Dieu par Christ. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous révère la parole de Dieu. Il le dit dans le message. L'homme lui-même, naturel, est mort pour comprendre la sagesse de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous vient en aide, qui donne un sens dans ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Vous pouvez donner la parole de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas en Christ, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il va trouver que c'est un livre, comme tant d'autres. Il y a même les gens qui ont lu la Bible, mais qui te disent, j'ai rien compris, j'ai rien senti. Parce que dans leur cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas opéré. L'Esprit de Dieu opère dans nos vies. Paul le rappelle que l'Esprit qui révèle avait été promis par le Seigneur. Et nous avons cette promesse également dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 26. Il nous parle, « Mais le Défendeur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera, tout ce que je vous ai dit. » C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole de Dieu. Et au verset 12 et 13, il nous parle de l'action du Saint-Esprit dans son inspiration. Il commence en disant, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » L'apôtre Paul affirme que c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu que les apôtres ont annoncé la parole de Dieu. Ils ne se sont pas servis de discours basés sur la sagesse humaine. L'apôtre Paul lui-même s'en défend. Mais par contre, l'apôtre souligne que même les mots utilisés pour exprimer les vérités spirituelles ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui inspire, qui a inspiré ceux qui nous ont laissé cette richesse, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Défenseur, je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. C'est l'Esprit de Dieu, même aujourd'hui, qui peut inspirer les hommes qui travaillent pour le Seigneur. Le Saint-Esprit n'allait pas seulement dire aux disciples ce dont ils se souviendraient du passé, il allait également les révéler ce qui viendra dans le futur. C'est l'œuvre de l'inspiration. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit inspire la parole de Dieu. Et au verset 14 jusqu'à 16, il y a la troisième action du Saint-Esprit. le Saint-Esprit dans son action d'illumination. Illuminer qui veut dire avoir l'éclairage divin. C'est pas question d'avoir des flashs, non. C'est question que l'Esprit de Dieu éclaire la parole de Dieu. Ce verset est une réponse, cette action du Saint-Esprit est une réponse que nous, au psalmiste, dans son psaume, le psaume 119, verset 18, là où il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole ». Le psalmiste avait compris que sans la présence du Saint-Esprit, sans la puissance surnaturelle de Dieu, le Saint-Esprit, nous sommes incapables de comprendre les richesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Vous l'avez compris, mon objectif ce matin, c'est vous faire aimer et chouchouter le Saint-Esprit de Dieu. Il joue un rôle capital. L'illumination et l'œuvre du Saint-Esprit pour nous nous fait connaître la signification de l'Écriture et la rendre compréhensible. En effet, sans l'éclairage du Saint-Esprit et sans la lumière divine, l'homme naturel est incapable de saisir les vérités bibliques. Par contre, l'homme illuminé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est capable de discerner, de comprendre ces merveilleuses vérités. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui qualifie le chrétien, qui le rend capable à comprendre les Écritures et à être capable de les transmettre à son tour. On est bien d'accord que si toi-même, moi-même, je n'ai pas compris, incapable de pouvoir transmettre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Nous tous, vous et moi, qui prennent la parole de Dieu, qui ont envie de méditer la parole de Dieu, qui plongent nos regards dans la parole de Dieu, c'est lui qui nous l'explique, qui nous inspire, qui nous éclaire, qui nous équipe et qui nous rend capables aussi de transmettre ce message que Christ nous a donné. Mission d'évangéliser. Seul le Saint-Esprit est capable de nous équiper et nous rendre capables de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Paul termine au verset 16 en disant « Personne n'a connu la pensée du Seigneur si ce n'est celui qu'il a voulu se révéler, à qui il a voulu se révéler. Par ailleurs, ceux qui ont la pensée de Christ sont capables de comprendre sa pensée grâce au don du Saint-Esprit qui les habite et les guide. » Le Saint-Esprit, pour résumer, révèle la parole de Dieu. Il est à l'origine de ces belles écritures de Dieu que nous saisissons, nous avons la grâce de tenir dans nos mains. Il est à l'origine de l'inspiration que les hommes ont utilisée pour nous laisser cet héritage. Le Saint-Esprit est à l'origine de l'éclairage de ceux qui nous ont précédés. Et nous, aujourd'hui, qui prenons dans nos mains ce message qui est la puissance de la parole de Dieu. Il nous invite à aimer, à chérir le Saint-Esprit parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Paul souligne ces vérités aux Corinthiens pour encore éclaircir les choses, pour encore les dire que là où ils devraient mettre leur attention plus qu'autre chose, que c'est dans la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu, et qu'ils ont un guide, le Saint-Esprit, le conseiller, le consolateur, qui les accompagne pour comprendre le message que Christ nous a laissé. Les mises en pratique pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on écoute ce message de Paul? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme nos outils personnels? Je dirais, rassure-toi que tu as donné ta vie à Christ et que tu lui appartiens. qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Rappelez-vous que Paul a commencé en parlant du témoignage de Dieu qui est Christ et Christ ressuscité. Tout commence autour de Jésus. Il rappelle encore que celui qui est à la base de tout, c'est Christ, Christ ressuscité. Parce qu'une fois qu'on accepte Christ dans sa vie, alors il nous donne son Esprit Saint. Je vous lis la parole, un verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il confirme que celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui s'est repenti de ses péchés, qui l'a accepté dans sa vie, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 27. « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction, il veut parler ici du Saint-Esprit que nous avons reçu du Seigneur, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses et qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. » Nous avons reçu le Saint-Esprit le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et de là, on peut déjà dire « Merci Seigneur ». Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Rassure-toi que ta vie a été donnée au Seigneur. Deuxième pratique, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, nous écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 3. Versets 30 à 32. Le Saint-Esprit est notre gage, le sceau qui marque notre appartenance à Christ. C'est l'une des trois personnes de la Trinité qui est à nos côtés tous les jours. Sa présence nous pousse à chercher la sainteté, à nous éloigner de tout péché. N'attristez pas le Saint-Esprit qui nous a été donné. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est une personne, s'il peut être triste, c'est qu'il a une personnalité. Par contre, on devrait l'aimer, on devrait lui parler, on devrait lui parler à notre esprit parce qu'il vit en nous. Lui demander conseil dans la prière parce qu'il est avec nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est une mise en pratique pour que le Saint-Esprit puisse être notre ami de tous les jours. C'est un appel à la sainteté de tous les jours. Et cet appel fait que lorsque nous nous approprions ces qualités, le Saint-Esprit s'épanouit en nous. Alors il nous révèle ces secrets cachés que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Aimons le Saint-Esprit, n'attristons pas le Saint-Esprit qui nous habite. Troisième cas pratique, c'est aimer la Bible, aimons la Bible, chérissons la Bible. Elle est la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu, celle qui transforme, celle qui sauve, celle qui rend capable à toute œuvre bonne, provient de la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu est révélée dans sa parole tout entière, les 66 livres de la Bible. La parole de Dieu est la voie, le véhicule du Saint-Esprit. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ne crois pas que tu vas recevoir un enseignement quelconque du Saint-Esprit. Impossible. Essaye de passer quelques jours, ce que je ne te souhaite pas, sans lire la parole de Dieu. Tu vas te sentir vide. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous parle. Nous l'avons vu. C'est à travers sa puissance que Dieu nous éclaire. C'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient nous parler, te révèle, te dit « Ah oui, je n'avais pas compris. Ok, je l'avais lu il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui je la comprends autrement. » Je suis sûr que vous avez eu cette impression. Que tu lis la parole de Dieu et que tu la relis et que tu la comprennes autrement, tu te dis « Tiens, je n'avais pas saisi. » En effet, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit dans les secrets larges de Dieu, il te révèle de nouvelles choses. Il te parle de nouvelles choses. Il t'éclaircit. Il te montre le chemin. Il est en toi, il vit avec toi. Et son objectif, rentrez encore en Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'au 16, vous verrez comment il fait du travail jusqu'à ce qu'il nous amène à la perfection. Attendre le jour où le Seigneur viendra nous prendre. Aimons le Saint-Esprit, aimons la parole de Dieu, chérissons la parole de Dieu, faisons l'effort. Le diable sait que nous sommes pauvres parce que, spirituellement et matériellement, parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Il le sait. Et c'est pour cela que chaque fois, il essaie de nous dévier, mettre d'autres programmes, que nous soyons remplis. Et que nous n'ayons pas le temps d'aller en intimité avec le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. » Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Et quelqu'un a dit, notre amour pour le Seigneur se démontre dans notre appétit pour la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Nous avons toutes les richesses nécessaires pour nous sentir bien dans cette parole que Dieu, dans sa sagesse, a inspirée, que Dieu, dans sa sagesse, a révélée, que Dieu, dans sa sagesse, nous éclaire et nous conduise par son Esprit Saint. Je vous invite à la prière. Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es plus grand que nous, tu nous dépasses. Mais tu, en même temps, tu nous parles. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, qui nous habite, qui nous révèle ta parole, qui nous inspire, qui nous éclaire et nous montre le chemin. Travaille encore dans nos vies pour que nous puissions encore t'aimer davantage, Christ, aimer ta parole, te chercher davantage. Et que toi, sœur, tu puisses être glorifié dans nos vies de tous les jours. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.